Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesia non te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesia non vi aiuta a vivere, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 20h à 21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat, s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mouriras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard. On se trouve aujourd'hui, une fois de plus, au collège Louise Michel de Ganges pour une émission qu'on a préparée avec les élèves de 3e de Madame Cuchard-Bouvier. 4e, oh là là, mais non, ça commence très très mal. De 4e, je vais me faire huer parce qu'en plus, il n'y a pas que la classe de Madame Cuchard-Bouvier, il y a aussi d'autres classes qui sont là dans l'amphithéâtre du collège pour assister à l'enregistrement de cette émission qui est consacrée à celui que Louise Michel justement appelait son ami dans ses lettres, c'est-à-dire au grand Victor Hugo. Alors évidemment, vous doutez bien que 2 fois 50 minutes pour parler de toute la vie de Victor Hugo, c'était trop. On s'est limité à parler de Hugo l'exilé, c'est-à-dire celui qui nous interroge beaucoup, dont d'ailleurs un supplément du Monde là récemment vient de faire tout un dossier en parlant de cet Hugo très politique. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les poèmes, les textes de Hugo que tous les élèves de la classe vont dire. Et mieux que ça, ils ont commencé à nous tracer un petit portrait de ce qu'était Victor Hugo avant l'exil, c'est-à-dire avant 1851. Je vais me tourner vers Lise qui va nous dire un petit bout du texte.
Et c'est même Lola qui va nous...
Et c'est Lola qui le dit. C'est Lola qui dit Lise.
J'avais 12 ans, elle en avait bien 16. Elle était grande et moi, j'étais petit. Pour lui parler le soir, plus à mon aise, moi, j'attendais que sa mère sortît. Puis je venais m'asseoir près de sa chaise pour lui parler le soir, plus à mon aise. Que de printemps passé avec les fleurs, que de feux morts et de tombes closes. Se souvient-on qu'il fut jadis des cœurs? Se souvient-on qu'il fut jadis des roses? Elle m'aimait, je l'aimais. Nous étions deux purs enfants, deux parfums, deux rayons. Dieu l'avait faite ange, fée et princesse. Comme elle était bien plus grande que moi, je lui faisais des questions sans cesse, pour le plaisir de lui dire « Pourquoi ?» Et par moments, elle évitait craintive mon œil rêveur qui la rendait pensive. Puis j'étalais mon savoir enfantin, mes jeux, la balle et la toupie agile. J'étais tout fier d'apprendre le latin. Je lui montrais mon Phèdre et mon Virgile. Je bravais tout, rien ne me faisait mal. Je lui disais « Mon père est général. » Quoi qu'on soit femme, il faut parfois qu'on lise dans le latin qu'on épelle en rêvant. Pour le traduire en versets à l'église, je me penchais sur son livre bien souvent. Un ange ouvrait sur nous son aile blanche quand nous étions à vêpres le dimanche. Elle disait de moi « C'est un enfant ». Je l'appelais « Ma demoiselle Lise ». Pour lui traduire un psaume bien souvent, je me penchais sur son livre à l'église. Si bien qu'un jour vous le vîtes, mon Dieu, sa joue en fleurs toucha ma lèvre en feu. Jeunes amours si vite épanouis, vous êtes l'aube et le matin du cœur, charmez l'enfant, extase inouïe. Et quand le soir vient avec la douleur, charmez encore nos âmes éblouies. jeunes amours si vite évanouis.
Merci Lola. Donc c'était Élise, un poème de jeunesse de Victor Hugo, où il évoque lui-même un de ses premiers émois amoureux. Alors nous avons nos amis Chloé qui sont là et qui vont commencer par nous parler de l'enfance de Victor Hugo.
Voilà, on peut dire pour les auditeurs qui ne nous voient pas qu'elles sont absolument blanches. Une est blanche avec des taches rouges, l'autre est rouge avec des taches blanches. Elles sont terrorisées. Donc Chloé Esteves et Chloé Cotteret vont nous parler un petit peu de ce Hugo, du jeune Hugo. Allez, on se lance.
Il est né à Besançon, qui est une ville de garnison. Il est né en 1802, le 26 février.
Et alors, ses parents, ils font quoi? Ils sont quoi? Parce que c'est une ville de garnison.
Bah, son père, il est général dans l'armée de Napoléon.
D'accord.
Et sa mère, elle est femme au foyer.
Oui, elle n'a pas de métier particulier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de leur origine à ses parents? C'est des parents de quel milieu?
Pauvres.
Pauvres, plutôt modestes, ouais.
Ah, merde.
Et la dernière fois, Nathalie Cuchard-Bouvier nous a parlé un petit peu de cette famille. Vous, Nathalie, vous voulez dire deux, trois mots dessus?
Ce que l'on peut dire de la famille de Victor Hugo, c'est que ses deux parents, pour l'époque, sont des parents qui sont athées. Sa mère est une fille qui est née en Bretagne et elle a été abandonnée, elle est devenue orpheline de sa mère. Et elle a été élevée par sa tante qui lui a donné une éducation selon les idées de Voltaire.
Alors les filles, parlez-nous un petit peu quand même de l'enfance de Hugo, un petit peu ces grands chocs. Où est-ce qu'il va passer son enfance là?
Il vivait à Châteaubriand.
Ah non.
Ah mince.
Il a dit à 14 ans, il a dit je veux être plus que Châteaubriand. Mais je pense qu'il a passé pas mal de beaucoup d'années d'enfance à Paris et puis en Espagne, non?
Oui, en Espagne, et il a aussi été inscrit dans un internat privé et sinistre en Espagne avec ses frères.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il va pour la première fois en Espagne? Pourquoi il va en Espagne, d'ailleurs?
Rejoindre son père à Madrid, parce qu'il suit les armées de Napoléon.
Et même son père a un rôle très important dans la guerre d'Espagne.
Oui, c'est le général.
Voilà, c'est un peu le commandant en chef, disons, du maintien de l'ordre en Espagne.
Il est aussi surnommé Brutus.
Brutus, absolument, ouais. Et qu'est-ce qui se passe là quand le jeune Hugo arrive en Espagne? Il fait la route avec ses frères et sa mère dans un carrosse, enfin dans une voiture à chevaux. Et qu'est-ce qu'il voit là?
Il voit les pendus.
Les pendus. C'était qui les pendus donc?
Les gens qui ont fait la guerre.
Mais
les
oui,
Espagnols.
Oui, bah ce sont des Espagnols, ce sont des gens qui n'ont pas accepté, des gens qui font partie de l'armée espagnole, qui refusent l'invasion bonapartiste et qui sont pendus, et sur ordre de qui?
De son père.
De son père, en tout cas sous l'ordre de l'autorité française, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe là dans cette voiture là?
Eh bien, le petit Victor, qui avait 8 ans, il voit tous ses pendus et sa mère disait à ses frères de le recouvrir.
Voilà, de l'empêcher de voir ça, mais il a quand même vu, quoi. Et puis il y a autre chose qu'il va voir dans son enfance très tôt aussi, peu de temps après.
Je ne sais pas.
Quand il revient à Paris.
Les ravages, la guerre.
Oui, bien sûr, il va les ravages de la guerre, mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il voit qu'il frappe beaucoup? Une histoire qui a trait avec la condamnation à mort, avec la peine de mort.
Ah oui, il voit sur des affiches que son parrain, il va être condamné.
Il va être plus que condamné. En général, on n'annonce pas que les gens sont condamnés. On annonce une fois qu'ils ont été condamnés, à quoi ils ont été condamnés. Et il est condamné à quoi, son parrain?
À la fusillade.
Voilà. Il est condamné à être exécuté parce qu'il a pris part à un complot contre Bonaparte. Donc ce parrain, en fait, c'est Lahorie, c'est ça, son nom?
C'est Lahorie. Et Lahorie, il a une importance plus que...
C'est l'amant de la mère à Sophie.
C'est l'amant de sa mère.
Et il s'appelle Victor Fano Lahorie.
Voilà.
Donc on peut dire que déjà dans cette famille Hugo, ça ne marche pas très très bien. Enfin, il y a dès l'enfance, et alors il y a la présence de cette violence, la présence de la mort, et puis aussi des disputes. Hein, parce que si la mère a pris un amant, c'est aussi probablement que ça ne se passe pas très bien. En fait, je crois que Laori, c'était même le père de Hugo qui avait demandé à la mère un peu, de l'aider à se placer quoi, autour du pouvoir. Laori était quelqu'un d'influent dans le pouvoir à l'époque, et il va comploter contre Napoléon. Donc l'enfant, il voit ça, il va déjà s'épandre, cette condamnation à mort, et puis dans un climat familial qui n'est pas très heureux, on va dire. Il y a beaucoup de disputes. Bon, finalement, les parents vont se séparer, d'ailleurs. Vous nous avez parlé tout à l'heure du collège, après. Donc il est dans ce collège sinistre. Il n'est pas tout seul, d'ailleurs. Il est avec qui dans ce
collège ? Avec ses frères.
Voilà, avec ses frères. Donc ils sont très soudés aussi avec les frères.
Oui. Bah, l'école Victor Hugo, c'était un élève très brillant en maths, comme en français, en latin, en tout, même en dessin aussi.
Voilà, c'est important de dire ça, oui, le dessin, parce qu'il dessine sur tous les trucs qui gribouillent, il fait déjà des dessins.
Mais il se révèle plus doué avec les mots.
Voilà.
Tous les soirs, à la lueur d'une chandelle, il écrivait des poèmes, des scènes de théâtre.
D'accord, et les deux frères, vous avez dit qu'ils sont très soudés, comment ils s'appellent ces frères d'ailleurs ? Vous connaissez les prénoms des frères ?
Il a Abel et Eugène.
Voilà. Et Eugène, c'est très important parce que les deux frères vont prendre la défense de leur frère, du petit Victor, devant les parents, surtout quand Victor va vouloir s'affirmer comme un écrivain. Parce que pour le père, il n'est pas question d'être écrivain. C'est pas un métier sérieux, ça. Hein. Et les autres vont le défendre. Et puis, il va y avoir aussi, parce que bon, toute la vie de Hugo est marquée par beaucoup de drames, son frère Eugène, d'ailleurs, va mourir en asile psychiatrique. Quoi. Il va être gagné petit à petit par la folie.
Je crois que le mariage de Victor va beaucoup l'ébranler aussi, parce qu'il était très proche de Victor. Et donc le fait que Victor se marie assez jeune avec Adèle, on va en parler tout à l'heure, a beaucoup ébranlé son frère. Et donc Hugo est très précoce en tant qu'écrivain, versificateur, prosateur. Il écrit très jeune. Et même quand il sera un peu plus vieux, quand il aura 28 ans, il écrira, voilà ce qu'il écrivait sur finalement son enfance, son apparition au monde. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût ainsi qu'une chimère, abandonné de tous excepté de sa mère, et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau, cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi.
Voilà, donc pour résumer, on pourrait dire que c'est une espèce de petite herbe fragile qui a poussé, qui s'est fortifiée dans des épreuves absolument terribles. Hein. Et ça va être toute sa vie comme ça, c'est-à-dire qu'il va traverser des tas de drames. Hein. Ce qui est incroyable aussi, comme nous l'a dit Madame Cuchard-Bouvier, c'est que sa famille soit athée, hein, d'un milieu assez pauvre. Donc lui, c'est quelqu'un qui vient d'en bas, qui se construit lui-même, et aussi qui va se fabriquer sa propre religion d'ailleurs. Et des convictions très fortes, notamment contre la peine de mort. Ça, c'est quelque chose qu'il aura toute sa vie, bien qu'il change beaucoup d'opinion politique ou de bord politique. Sa conscience, enfin, de grandes questions de l'humanité reste la même tout au long de sa vie. Voilà.
On va profiter alors du fait qu'il ne se soit pas encore marié pour écouter les premiers textes de Victor.
Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla, dans l'ombre, entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute, qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route. Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire par pitié ». Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle, une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près
que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père.
Elle était déchaussée, hein. Elle était décoiffée. Assise les pieds nus parmi les jonques penchants, moi, qui passais par là, je crus voir une fée. Et je lui dis, « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis, « Veux-tu, hein, c'est le mois où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?»
Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive, elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devient pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire.
Après, la rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols.
J'allais, j'écoutais les merles.
Et Rose, les rossignols.
Moi, ses ans et l'air morose.
Elle vint, ses yeux brillaient, les rossignols chantaient Rose.
Et les merles me sifflaient.
Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches.
Je ne vis pas son bras blanc.
Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure.
Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois.
La voyant parfois sourire et soupirer quelquefois.
Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds.
Soit, n'y pensons plus,
dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Venez-vous dans l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Voilà, tout le monde a reconnu évidemment la légende de la nonne de Victor Hugo chantée par Georges Brassens. Et vous voyez comme quoi l'Espagne a été toujours très très présente dans l'esprit et dans l'écriture de Victor Hugo. Maintenant, c'est Anaïs et Jody qui vont nous parler. On va essayer de faire très vite un portrait du Hugo mature, quoi, hein, du Hugo à partir de ses 20, 30, 40 ans, puisque on va parler surtout du Hugo d'après la cinquantaine. Donc dites-nous un petit peu qui c'était cet homme Hugo.
C'était un célèbre écrivain. Il a eu beaucoup de maîtresses. Il n'y a eu que deux femmes qui ont réellement compté pour Hugo. Il y a d'abord Adèle Fouché, qu'il a rencontrée enfant, avec qui il jouait souvent.
Donc il y a Adèle, oui, effectivement, qui est celle qu'il a aimée en secret d'ailleurs, parce que quand ils se sont rencontrés très jeunes, je crois.
Oui, 17 ans.
17 ans, et lui, il en a un an de plus, je crois, ou 18. Hein. Mm. Et puis, ils correspondent en secret, je crois, ils s'envoient des messages codés.
Oui, ils avouent leur admiration vers 17 ans.
Voilà. Et puis finalement, les parents ne sont pas très d'accord.
Non, la mère s'oppose au mariage de Hugo. Ils ne peuvent pas se marier car Victor doit attendre d'être plus célèbre pour avoir des revenus. Donc ils devront passer 3 ans avant de se marier.
Oui, et alors qu'est-ce qui va changer la situation ?
Je crois qu'avant l'âge de 20 ans, il est tellement célèbre déjà que le roi Louis XVIII le connaît, achète son ouvrage Ode et lui octroie une pension très importante pour un jeune homme de son âge. Et c'est à partir de cette date qu'il va avoir conscience qu'il va pouvoir vivre de sa plume, finalement.
Donc il est comment, Hugo ? Il est moche, moche, timide, bafouillant, ou au contraire c'est quelqu'un de...
C'est quelqu'un de normal, quoi.
Ah, moi, je dirais que c'est plus que quelqu'un de normal. Il est quand même franchement au-dessus de la normale. C'est quelqu'un qui rayonne énormément. C'est quelqu'un qui séduit. C'est quelqu'un qui... Il sait qu'il est doué. Hein. Il sait qu'il écrit très bien. Bon, que c'est pas... C'est comme si aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un descendait de l'Élysée pour dire ici au collège Louise Michel, eh bien voilà, Anaïs et Jody, vous êtes nommés. On vous donne une bourse pour faire des émissions de radio tous les jours. Tellement vous êtes... Vous voyez le genre. Alors, dites-nous un petit peu...
Donc, pendant son mariage, les premières années sont très heureuses. Ils auront d'ailleurs 5 enfants. Mais en 1830, Adèle bannit Hugo de leur lit conjugal.
D'accord.
Oui, parce qu'il a eu beaucoup de maîtresses. Et Adèle s'en est rendu compte.
Ah oui, mais elle aussi.
Adèle aussi, elle en avait et elle l'a pas dit.
Oui, on peut dire que d'une certaine manière, Victor Hugo, il refait un petit peu la saga de ses parents, un petit peu.
Oui.
C'est ça qui est en train de se passer. Et donc lui, alors, il rencontre qui ? Il rencontre, lui, quelqu'un. D'abord, qui est cet amant ? C'est quand même important. Qui est l'amant d'Adèle Hugo ?
C'est Sainte-Beuve.
C'est Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve, c'est qui au départ ?
C'est l'ami de Victor Hugo. Voilà, il l'a même logé.
Il l'a logé. Puis plus que ça, c'est en plus quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il fait, Sainte-Beuve ? C'est quoi son métier ?
C'est un critique littéraire.
Absolument, c'est un critique littéraire, puis qui a beaucoup soutenu Hugo au début, quoi. Donc c'est un petit peu le drame à l'intérieur de l'amitié et de la famille. Hein. Et puis lui, alors de son côté, Hugo, qui est-ce qu'il va rencontrer ?
Hugo, en 1833, il va rencontrer Juliette Drouet.
Juliette Drouet, oui.
Oui, il avait quand elle jouait dans Lucrèce Borgia.
Elle jouait dans Lucrèce Borgia. Elle était donc comédienne.
Oui. Hein.
D'accord. Elle a quel âge quand il la rencontre ? Elle est jeune, je crois. 26 ans ou 28 ans par là, 26 ans. Et peu importe, en tout cas, bon, ils sont très jeunes. Et donc cette histoire, elle commence. Et ça va durer cette histoire ou pas ?
Oui, pendant près de 50 ans.
Ah, voilà, ça va durer jusqu'à la fin, je crois.
Oui.
Oui, ça va durer jusqu'à la fin. Ils vont s'écrire, j'ai vu ça, une lettre par jour pendant 50 ans, ce qui représente 15 000 lettres à peu près, hein, plus de 15 000 lettres. Et alors, cette rencontre avec Juliette Drouet correspond aux années pendant lesquelles Hugo va écrire pas mal pour le théâtre.
Oui. Hein,
il va écrire plusieurs pièces de théâtre.
Oui. Il va même consacrer plusieurs poèmes à Juliette Drouet, comme « Mon âme à ton cœur s'est donnée ou hier »,« La nuit d'été ». Et ils entretiendront une correspondance ininterrompue et vivront leur relation au grand jour.
Et alors, quel est le premier grand drame familial que Hugo va connaître et qui va un peu transformer sa
c'est
vie?
C'est le décès de sa mère.
Le premier, c'est le décès de sa mère, oui.
En 1821.
Et puis ensuite?
Et après, bah, c'est le décès de ses 4 enfants sur les 5.
Oui, mais celui qui l'a beaucoup marqué, je pense que c'est le décès de sa fille Léopoldine,
oui,
hein, qui se noie dans la Seine avec...
Avec son mari sur la barque. Et il revenait à peine d'Espagne et il l'a appris.
Ils se sont mariés. Ils venaient de se marier, hein, je crois.
Oui.
Léopoldine et son mari. Enfin, voilà. Et c'est à Villequier. Et donc, vous savez, oui, il revenait d'Italie. Et avec qui il revenait d'Italie?
Avec Juliette Drouet.
Avec Juliette Drouet. Donc, vous voyez, il y a une histoire de culpabilité terrible, quoi, ce qu'il va porter très longtemps dans sa vie, quoi. Et puis, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore du personnage Hugo? Il y a quand même une autre chose qui est très importante là dans ces années de maturité, là. Il s'intéresse à quoi?
À la politique.
Eh ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors
il a été influencé par sa mère et il s'est d'abord, il est d'abord conservateur monarchiste et il s'est laissé séduire par la politique, la démocratie. Et au début de la révolution de 1848, il devient député de la Deuxième République et il s'est présenté à la présidence. Et en fait, il a été élu, Napoléon Bonaparte, il a été élu grâce à Victor Hugo, parce qu'il l'a soutenu.
Oui, c'est ça, il le soutient aux élections présidentielles. Alors c'est incroyable, parce que 3 ans après, il va lui vouer une haine à mort. Hein. Donc là, il y a un grand revirement de Hugo. Mais ça va faire l'objet de tout ce dont on va parler après. On va laisser la place maintenant au poème, peut-être, tout simplement.
Elle me dit...
Quelque chose me tourmente.
Et j'aperçus son cou de neige et dessus un petit insecte rose. J'aurais dû...
Mais sage ou fou, à 16 ans on est farouche.
Voir le baiser sur sa bouche, plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage, de rose taché de noir.
Les fauvettes pour nous voir se pencher dans le feuillage.
Sa bouche fraîche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle.
Mais le baiser s'envola. Fils, apprends comme on me nomme. Des insectes du ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme.
Ils se battent, combat terrible, corps à corps. Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts. Ils sont là seuls, tous deux dans une île du Rhône. Le fleuve, à grand bruit, roule un flot rapide et jaune. Le vent trempe en sifflant les brins d'herbe dans l'eau.
L'archange Saint-Michel attaquant Apollo ne ferait pas un choc plus étrange et plus sombre. Déjà, bien avant l'aube, il combattait dans l'ombre. Qui, cette nuit, eût vu s'habiller ces barons avant que la visière eût dérobé leur front, eût vu 2 pages blonds roses comme des filles.
Hier, c'était 2 enfants riant à leur famille, beaux, charmants. Aujourd'hui, sur ce fatal terrain, c'est le duel effrayant de 2 spectres d'airain, 2 fantômes auxquels le démon prête une âme, 2 masques dont les trous laissent voir de la flamme.
Ils luttent, noirs, muets, furieux, acharnés. Et depuis qu'ils sont là, sombres, ardents, farouches, un mot n'est pas encore sorti de ces 2 bouches. L'un s'appelle Olivier et l'autre a nom Roland.
Ils luttent de si près, avec de sourds murmures, que leur souffle âpre et chaud s'emprunt sur leurs armures. Le pied presse le pied, l'île à leurs noirs assauts tressaille au loin. L'acier mord le fer, des morceaux de haume et de haubert, sans que pas un s'émeuve, saute à chaque instant dans l'herbe et dans le fleuve.
Leurs brassards sont rayés de longs filets de sang qui coulent de leurs crânes et de leurs yeux descendent. Soudain, Sir Olivier, qu'un coup affreux démasque, voit tomber à la fois son épée et son casque, main vide et tête nue, et Roland, l'œil en feu. L'enfant songe à son père et se tourne vers Dieu. Durandal, sur son front brille, plus d'espérance.
Ça, dit Roland, je suis neveu du roi de France. Je dois me comporter en franc neveu de roi. Quand j'ai mon ennemi désarmé devant moi, je m'arrête. Va donc chercher une autre épée et tâche cette fois qu'elle soit bien trempée. Tu feras apporter à boire en même temps, car j'ai soif.
Mes concitoyens, je réponds à l'appel des 60 000 électeurs qui m'ont spontanément honoré de leur suffrage aux élections de la Seine. Je me présente à votre libre choix. Dans la situation politique telle qu'elle est, on me demande toute ma pensée. La voici. Deux républiques sont possibles. L'une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera de gros sous avec la colonne, jettera bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat. L'autre sera la sainte communion de tous les Français dès à présent et de tous les peuples un jour. Dans le principe démocratique, fondera une liberté sans usurpation et sans violence, mais d'hommes libres. Donnera tout l'enseignement comme le soleil donne la lumière, gratuitement, multipliera les chemins de fer, reboisera une partie du territoire, en défrichera une autre, décuplera la valeur du sol, partira de ce principe qu'il faut que tout homme commence par le travail et finisse par la propriété, assurera en conséquence la propriété comme le travail et la représentation du travail accompli. La propriété future respectera l'héritage qui n'est autre que la main du père tendue aux enfants à travers le mur du tombeau, sans quitter terre pourtant et sans sortir du possible et du vrai, bâtira le pouvoir sur la même base que la liberté, c'est-à-dire sur le droit, subordonnera la force à l'intelligence, dissoudra l'émeute et la guerre, ces deux formes de la barbarie, fera de l'ordre la loi des citoyens et de la paix la loi des nations, vivra et rayonnera, grandira la France, conquérera le monde, sera en un mot le majestueux embrassement du genre humain sous le regard de Dieu satisfait. De ces deux républiques, celle-ci s'appelle la civilisation, celle-là s'appelle la terreur. Je suis prêt à dévouer ma vie pour établir l'une et empêcher l'autre.
A soutenu Louis-Napoléon Bonaparte en 1949 pour les élections à la présidence de la République. Mais le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon veut s'arroger qu'on modifie la Constitution pour lui assurer finalement la mainmise sur le pouvoir. Et là, immédiatement, Hugo se dresse contre lui. Et donc ça va être, je pense, dans la vie de Hugo, puisque ça va être à l'origine de son exil. Il va quitter la France à cette époque-là. Et d'ailleurs, plus par volontarisme, me semble-t-il, que contraint. Certes, il était contraint par la situation politique, mais il s'est tellement dressé moralement contre l'acte politique qu'il venait de se dérouler qu'il ne lui a semblé avoir plus qu'une seule solution, c'est s'exiler.
Voilà, puis alors il faudrait dire aussi, il y a une espèce de bascule dans la vie de Hugo entre, en gros, bon, d'abord il y a l'histoire de la mort de sa fille, ensuite il y a une histoire d'adultère aussi dans laquelle il est surpris avec, je ne sais plus son nom, d'ailleurs, la femme d'un peintre, et ça il est pair de France, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, c'est comme s'il avait la Légion d'honneur ou quelque chose comme ça.
Oui, pair, P-A-I-R.
P-A-I-R, hein, pair de France, c'est-à-dire les grands égaux, si vous voulez, des plus grands dans la République. Donc il a un scandale qui tombe sur lui, il est un petit peu installé dans une sorte de confort, et puis il est en passe de devenir quelqu'un qui, bon, ben, voilà, il fait partie des meubles et c'est tout, quoi. Et il s'est engagé donc dans le soutien à Louis-Napoléon Bonaparte. Et petit à petit, il est en train de se rendre compte aussi à travers la Révolution de 48. Vous savez, tout à l'heure, on va lire un très beau texte sur la mort d'un enfant. Il est témoin de choses très violentes. Il est même envoyé, lui, pour négocier avec les gens sur les barricades. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se rendre compte qu'il y a autre chose que cette aristocratie qu'il côtoie, parce qu'il il est reçu chez le roi avant l'arrivée de Bonaparte. C'est quelqu'un qui est dans les sphères du pouvoir. Il est très installé.
Hein. Il fréquente Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte aussi quand il est président.
Bien sûr.
Avant le coup d'État, il fréquente Louis-Napoléon
voilà.
Bonaparte.
Et ce coup d'État, alors qu'il commence à avoir des idées de plus en plus à gauche, qu'il commence même à défendre, alors qu'il est un élu de la droite... Bonapartiste, il commence à prendre des positions qui sont complètement opposées à son propre parti. Et finalement, oui, on peut dire que quand le coup d'État a lieu... Alors, il y a une histoire qui est un peu drôle. Là, c'est tu me racontais ça quand on arrivait là, sur l'histoire du commissaire qui vient... Alors, Hugo pense que le commissaire vient pour l'arrêter. Hein, et le commissaire dit « Non, non, moi, je n'arrête que les gens dangereux ». Alors, on peut penser que Hugo, un petit peu piqué au vif, un petit peu vexé qu'on ne l'ait pas pris pour quelqu'un de dangereux, a décidé de s'exiler et de passer dans la clandestinité. Voilà.
Et donc, il va immédiatement quitter Paris pour Bruxelles. Il va passer quelque temps à Bruxelles. Et assez vite, il va aller s'installer sur l'île anglo-normande de Jersey. Et quelques mois après, donc le 2 décembre, il écrit un pamphlet, Napoléon le Petit, dans lequel il dénonce finalement la petitesse de ouais, ce qui vient de ça.
Je crois même que c'est la raison pour laquelle il est viré de Belgique. C'est à cause de Napoléon.
À cause de Napoléon Petit.
Il l'a écrit
en Belgique.
Il l'a écrit en Belgique et donc c'est et en plus ses fils, parce que toute la famille Hugo, c'est une véritable, vous voyez, c'est une dynastie un petit peu. Les fils Hugo, les deux plus grands, tiennent un journal qui s'appelle L'Événement, je crois, et évidemment ils soutiennent le père. Donc les fils sont mis en prison, le journal est interdit, Hugo part en Belgique et ça d'abord. Puis en Angleterre, et sa famille va le rejoindre d'ailleurs.
C'est ça.
C'est une espèce de tribu, un petit peu, la famille Hugo. Et il n'y a pas que la famille d'ailleurs. On pourrait dire aussi qu'il y a Juliette Drouet qui suit dans les
évidemment.
Valises derrière.
Bien sûr. Mais elle fait partie de la famille, on peut dire, Juliette.
Alors elle fait partie de l'histoire de Hugo. Elle fait presque partie de la famille. Il y a une chose qui est étrange, c'est que les deux femmes, enfin Adèle et Juliette, ne se rencontreront, je crois, que 2 ou 3 ans avant la mort de Hugo. Il y aura une rencontre en Angleterre entre ces deux femmes. Voilà. On est à Jersey et il faut dire aussi que là, c'est une grande transformation de Hugo qui devient une espèce d'un petit peu de héros, on va dire, héros, comme on dit vous savez, au Moyen-Âge, les héros, ceux qui sonnent la charge, là, qui annoncent les grandes nouvelles. Victor Hugo se laisse pousser la barbe. C'est un signe, d'ailleurs, de solidarité avec les proscrits, hein, les républicains qui ont été proscrits. Les républicains, à l'époque, portent la barbe. Hein, il se laisse pousser la barbe et il va d'ailleurs faire des réunions de ces proscrits en Angleterre. Les gens vont venir à Jersey, tous les républicains vont venir pour des grands banquets où Hugo continue à faire des discours, etc.
Et c'est donc, je crois, à partir de ce moment, Bruxelles, Jersey, puis Guernesey, on va le voir après, qu'il se transforme en républicain, Hugo. Hein.
Voilà.
C'est à ce moment-là.
Il est un républicain, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il est toujours un grand poète hein, et qu'il continue à écrire sur tous les registres. Et il continue aussi à écrire, d'ailleurs, sur ses grandes blessures. On va entendre maintenant peut-être, je crois...
Athéna.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai, les yeux fixés, sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur.
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx et de bruyères en fleurs.
Que veux-tu que je t'écrive ? Que veux-tu que je te dise ? Je suis plein de toi depuis plus de 11 ans. N'as-tu pas mon souffle, mon sang, ma vie ? Que puis-je t'apprendre que tu ne saches ? N'es-tu pas au commencement et à la fin de toutes mes pensées ? Oh, ma bien-aimée, il me semble que tu es devenue moi-même et que quand je parle à mon âme. Lis donc ce qui est en moi et vois comme je t'aime. Tu as été longtemps ma joie. Maintenant, tu es ma consolation. Ton regard est si charmant, ton sourire est si ineffable et si doux. Tu répands autour de toi un tel rayonnement de grâce, de dévouement et d'amour que j'oublie mon deuil et que je sors de ma nuit en te regardant. Tout frappé et tout brisé que je suis, Il me semble, quand je suis près de toi, qu'il peut encore entrer un peu de lumière dans mes yeux et un peu de bonheur dans mon âme. Je t'aime, mon pauvre ange. Tu as tous les trésors qu'une femme peut avoir dans le cœur et dans l'esprit. Tu es riche, va. Tu t'es élevé par le plus noble amour à la plus haute vertu. Toi qui m'as ôté tant de jours de deuil, toi qui m'as fait tant de jours de fête, et un jour de fête aujourd'hui. Sois heureuse comme tu es bénie, sois heureuse comme tu es bonne, sois heureuse comme tu es aimée. Écarte de ton beau front et de ton grand cœur les petits chagrins du moment, les ombres, les nuages qui passent. Tu mérites le ciel. Je voudrais que Dieu te le donnât sans t'ôter à moi, qu'il te fît ange en te laissant femme. Je t'aime.
Sitôt qu'Aminte fut venue, nue, devant le dais qui lui semblait laid, plus blanche qu'un bloc de Carrare, rare, elle défit ses cheveux blonds, longs, alors aux têtes de l'eunuque, nuque. Du Bostangui, tu te courbas, bas, le bassin dont l'amour enflamme l'âme. À ses pieds, laissa son mouchoir, choir, en disant ne sois pas rebelle, belle. Tes pieds blancs et tes blonds cheveux veulent. Or c'était le bassin des pires, pires. Qu'un vrai moine n'est plus qu'un manchot chaud. Faisant turques et circassiennes, siennes. Et pour soi seul, en nourrissant, sans. Donc à sa parole exigeante, jante. Aminte ne dit rien, ne vaut rien, rien. Elle inclina son cou de cygne, cygne. Qu'elle trouvait le vieux corbeau beau. Quand ces femmes virent ta mainte, mainte, jalouse idée à plus de vingt, vingt. Longtemps le sérail infidèle d'elle parla puis de ses cheveux blonds, longs. Les blanches qu'à Chypre on rencontre, contre. Et les noirs de visa pour.
L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau baigné sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait.
Nous le déshabillons en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant
« Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Ils l'ont pris en drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui nave ? » cria-t-elle. « Monsieur, il n'avait pas 8 ans. »
Ses maîtres, ils allaient en classe, étaient contents. « Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va mettre à tuer les enfants maintenant ? Ah, mon Dieu, on est donc des brigands. Je vous demande un peu. » Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre.
With all the clarity of a dream, sky so blue and grass so green,
the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. The blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, swept like a wave across the battlefield. Now with all the clarity a dream, the blood so red, the grass so green, gleam of spur on the chestnut flank, cavalry did burst upon the ranks.
Un brave ordre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée, et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut.
L'ogre, un beau jour d'hiver, peine sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogorowski.
La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, don fait par quelque Ulysse à cette Calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau.
On laissa l'ogre et lui, tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et qu'on n'a personne avec qui dire un mot ? L'ogre se mit alors à croquer le marmot.
C'est très simple, pourtant c'est allé un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim.
Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit, « Je l'ai mangé. »
Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, jugez ce que devint l'ogre devant la mer, furieuse qu'il eût soupé de son dauphin, que l'exemple vous serve. Aimez, mais soyez fin.
Ainsi s'achève la première heure de cette émission consacrée à Victor Hugo, l'exilé, qui a été préparée avec la classe de 4e de Madame Cuchard-Bouvier au collège Louise Michel de Ganges. Alors on va remercier tous les élèves. D'ailleurs, vous pouvez applaudir vos camarades parce que je pense qu'ils le méritent. C'est un gros, gros travail. Merci pour eux. Voilà, on va les présenter rapidement. Je dis que les prénoms, il y avait Lola, il y avait les trois Chloé, Alexandre et Thomas, Jody, Areski, Anaïs Margot, Charles, Aurélien, parce que tous ces groupes se mélangent, Benjamin, Salomé, Chena, qui n'était pas là, mais on la félicite quand même pour le travail qu'elle a fait, Tom et Athéna aussi, je crois que j'oublie personne.
Oh, Théophile et Jeanne, peut-être.
Et Théophile et Jeanne, excusez-moi. Et Johanna, pardon pour Johanna. Silouane. Et Silouane aussi, Silouane qui arrive en dernière minute pour remplacer quelqu'un qui était absent. Les musiques, eh bien, il faut remercier les musiciens aussi. Évidemment, Georges Brassens qui chantait Hugo. Renaud Garcia Fonce, Colette Mani qui chantait La Blanche Aminte, Dire Straits pour All Was War, et enfin la musique de Sheva, je ne sais pas qui c'est qu'il a joué.
Goran Bregovic,
pardon pour lui. Voilà. On remercie pour ce travail. On se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de cette émission qui a été le fruit d'un travail de plusieurs séances d'ateliers de préparation radiophonique. Cette opération d'ailleurs a été aussi soutenue, il faut le dire, par la médiathèque centrale de l'Hérault. Merci à tous les gens du collège qui nous ont aidés et Anita Messaoui aussi, responsable du CDI. À tout bientôt.